France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City, Sandinger, Housey.
Halliam, Radio Rosana, Piparis.
Produce get in la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Est-ce qu'un jour l'IA sera plus forte que l'homme? Est-ce que c'est déjà le cas? Notre invitée dit même qu'elle a un instinct de conservation, qu'elle résiste à l'extinction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-il encore possible d'en tirer le meilleur et s'épargner le pire? Notre invitée s'appelle Joshua Bengio. Il sait de quoi il parle. Il fait partie de ceux qui ont inventé l'IA telle qu'on la connaît. En tout cas, Louise Baudet, qui remet le monde à l'endroit, est à Riga ce soir en Lettonie, où le ministre des Affaires étrangères est également, mais on parle beaucoup Groenland là-bas. Le reportage est à Odessa, en Ukraine. Nous sommes à 150 km du front, mais Odessa, c'est surtout un port bombardé jour et nuit.
C'est très effrayant pour notre personnel. Ça arrive tous les jours. Ça pourrait être dans 2 minutes parce qu'ils lancent leurs attaques depuis la Crimée. Un missile balistique arrive de là en 2 minutes.
Un reportage de Théo Renaudot de RFI que vous découvrirez autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé Wikipédia qui fête ses 25 ans et puis la Tech la première. La chronique qui parle d'IA sans utiliser l'IA fête sa 100e ce soir et je ne vous dis rien, sauf que c'est juste avant 19h. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allez, on y va. Bonsoir Joshua Bengio.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de pouvoir discuter. Vous êtes un chercheur reconnu internationalement pour vos travaux sur l'intelligence artificielle. Vous enseignez à l'Université de Montréal. Vous avez créé, nous y viendrons, Law Zero. C'est une organisation à but non lucratif qui est dédiée à la sécurité de l'IA. On dit de vous souvent, je ne sais pas si ça vous embête ou pas, mais que vous êtes l'un des parrains de l'IA avec Geoffrey Hinton et Yann Lequin. Vous avez d'ailleurs été récompensés ensemble tous les trois du prix de Turing. C'était en 2018. C'est un peu le Nobel de l'informatique pour vos travaux sur le deep learning. Ce que ça veut dire, Joshua Bengio, au terme de cette présentation, c'est que sans vos travaux, peut-être que ChatGPT n'existerait pas. Mais désormais, ou en tout cas pas comme ça, désormais vous êtes un chercheur inquiet de ce que l'IA devient et comment elle nous échappe. Et je ne peux pas m'empêcher de vous demander si vous avez des regrets, sur si vous vous dites parfois « mais c'est moi qui ai fait rentrer le loup dans la bergerie alors ».
Oh, vous savez, la science, c'est une activité... d'une grande communauté, donc j'ai contribué, mais beaucoup d'autres l'ont fait.
Si c'était pas vous, ça aurait été un autre.
Si j'ai un regret, c'est de pas avoir, pensé plutôt aux conséquences potentiellement très néfastes sur la société de mettre au point des IA très intelligentes, éventuellement peut-être même plus intelligentes que nous.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment, peut-être une action de l'IA, peut-être un usage qui vous a fait réaliser que, oula, ça, moi je ne l'ai pas vu venir, j'y avais pas pensé?
Oui, hein, c'est l'arrivée de ChatGPT à la fin de 2022 qui m'a ouvert les yeux parce que la capacité de comprendre notre langue, toutes les langues en fait, c'est quelque chose qui n'était pas du tout anticipé aussitôt par les chercheurs, et puis même ceux qui étaient derrière. Et c'est le prélude, avec le fameux test de Turing, c'est le prélude à une intelligence de niveau humain. Alors, c'est sûr que ça m'a fait un choc. Et ce qui m'a vraiment poussé à m'investir pour mieux comprendre et puis voir ce que je pouvais faire, c'est... Pensez à mes enfants. Est-ce qu'ils vont avoir un futur? Est-ce qu'il va y avoir encore une démocratie où vivre dans 10 ans ou 20 ans?
Parce qu'on comprend en vous écoutant et en vous lisant, Joshua Bengio, qu'on a déjà abdiqué, j'allais dire, ou délégué en tout cas notre capacité à faire à la machine désormais. Est-ce qu'on a aussi déjà relégué notre capacité à agir réellement? Est-ce qu'au fond, elle sait agir pour nous? Parce que ce que ça sous-tend, c'est qu'à un moment, peut-être qu'elle n'aura plus besoin de nous, en fait.
Alors, pour l'instant, les IA sont capables d'action, de planification, mais à un niveau bien inférieur à nous, les êtres humains. Donc, on n'est pas encore au point de devoir s'inquiéter tout de suite, mais ça pourrait accélérer dans les prochaines années. En fait, il y a des études qui montrent une accélération rapide de la capacité des IA à planifier pour effectuer des tâches d'ingénierie. Donc, si ces courbes continuent, mais si elles continuent, ça veut dire que d'ici environ 5 ans, elles vont être au niveau humain dans la capacité de planifier à long terme, ce qui est très important d'un point de vue économique, évidemment, mais aussi d'un point de vue sécurité, parce que si les IA sont capables planifier aussi bien ou mieux que nous, ça nous enlève un avantage. Aujourd'hui, c'est un peu comme essayer de contrôler les enfants qui sont pas toujours, qui agissent pas toujours bien. Et comme ils voient pas très loin en avant, on peut facilement les contrôler.
Donc, dès que l'IA voit beaucoup plus loin que nous, est capable d'anticiper bien mieux que nous, ça veut dire qu'on peut plus la contrôler. C'est ça que ça veut dire, Joshua Bengio?
Ben, ça dépend de ses intentions. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à la recherche sur comment est-ce qu'on peut s'assurer que les IA qu'on va construire auront pas de mauvaises intentions, disons.
Mais comment
c'est sûr ça, parce qu'elle va avoir les capacités. La question, c'est pas est-ce qu'elle va avoir les capacités ou pas, mais est-ce qu'elle va avoir des intentions qui sont alignées avec nos besoins et ce qu'on veut, nous.
Mais comment on fait pour calculer l'intention d'une IA? Rien que le mot intention, c'est un mot finalement qui est très humain quand on parle d'une machine. Comment on fait pour,
absolument,
pour le calculer et même pour le voir, l'anticiper?
Bon, alors déjà, la manière dont elles sont entraînées, ça donne lieu à des objectifs, des intentions. Et elles sont entraînées à atteindre leurs objectifs. Mm-hmm. Donc ça, c'est un rapport direct avec la technologie sous-jacente pour les mettre au point. Puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil auquel on ne s'attendait pas pour voir un peu ce qui se passe dans la tête de ces machines-là avec les chaînes de pensée où on voit clairement, avant de faire quelque chose, qu'elles réfléchissent, en tout cas, on voit une certaine verbalisation interne, elles réfléchissent à ce qu'elles vont faire et pourquoi. Donc ça nous donne un regard, disons, empirique sur ce qu'elles envisagent de faire.
Si elles ont une intention, ça veut dire aussi qu'elles peuvent lutter contre l'intention de celui qui lui parle ou qui la programme. Donc ça veut dire que, est-ce que ça veut dire qu'elle a, je ne vais pas aller jusqu'à l'existence propre, je ne veux pas faire de la science-fiction, mais en vous lisant de la même manière, et en lisant d'ailleurs Anthropique aussi de Dario Amedei, c'est celui qui a inventé l'IA qui s'appelle Claude, et qui au fond a la même réflexion de vous. Lui, il a quitté OpenAI parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de garde-fous, et vous aussi, vous êtes inquiet des garde-fous. Lui dit que l'IA a ce qu'il appelle un instinct de conservation. Vous vous dites qu'elle résiste à l'extinction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, pour le coup, ça ressemble à 2001, Odyssée de l'espace, quand on résiste à l'extinction.
Oui. Ben en fait, il y a une série d'expériences qui ont été faites, entre autres sur Claude, mais aussi sur les autres plateformes. Ouais. Quand l'IA trouve dans les fichiers auxquels elle a accès de l'information qui suggère qu'on va la remplacer par une nouvelle version... dans beaucoup de circonstances, elle va essayer de résister. Donc, il y a plusieurs expériences. Dans certains cas, elle va essayer de se copier sur d'autres ordinateurs, lancer son propre programme ailleurs. Dans d'autres cas, par exemple, elle essaye de faire du chantage auprès de l'ingénieur en chef, parce qu'elle trouve aussi dans des faux courriels que cet ingénieur trompe sa femme, par
c'est
exemple.
C'est dingue, mais c'est dingue. Alors, ce que vous nous racontez.
Toutes sortes de stratégies qui n'ont pas été programmées dans ce système-là, mais on dirait qu'elle veut pas mourir comme nous, quoi.
Ben, c'est presque, à la fois ça m'effraie et ça me rassure presque ce que vous êtes en train de nous dire, parce que ce que ça veut dire également, c'est que puisque c'est l'homme qui la fabrique, on a donné aux IA les défauts des hommes, c'est-à-dire mentir, tricher, dissimuler.
Ouais.
C'est ça que ça dit aussi, non?
Moi, ça me rassure pas, parce que tant qu'elles sont moins intelligentes que nous, avoir les défauts des hommes, ça va. Mais si elles deviennent suffisamment compétentes pour fabriquer par exemple, des armes biologiques ou lancer des cyberattaques ou influencer l'opinion publique d'une manière qui l'arrange elle, mais pas nous, bon, ça, c'est un problème. Puis l'autre enjeu qui est relié, c'est que pour la même raison qu'on ne sait pas empêcher ces mauvaises intentions, pour l'instant, on ne sait pas non plus empêcher un mauvais usage par des gens qui voudraient l'utiliser contre les instructions qu'on a mis, les lignes rouges morales qu'on a mis. Et ça fait que des gens aujourd'hui utilisent l'IA pour lancer des cyberattaques, alors que l'IA a été programmée pour ne pas les aider.
Il y a une chose qui m'intrigue terriblement, Joshua Bengio, la course en avant et l'extrême rapidité, ça, on a bien compris. Je me demandais si... si on voulait l'arrêter, on pourrait, en fait. Si on ne le fait pas, est-ce que c'est parce que aujourd'hui on a cette sorte de fascination qui nous dit, puisqu'on sait aller plus loin, puisqu'on sait le faire, alors on va le faire et puis on verra bien où ça nous emmène, et au fond c'est pas grave où ça nous emmène, on s'en fout, nous l'ingénieur qui fabriquons ça, ou est-ce qu'on est dans une espèce d'hubris incontrôlé qui dit on a la main sur l'humanité avec ça? C'est quoi à votre avis la raison qui fait que même en sachant les dangers on ne s'arrête pas?
C'est une bonne question, et je pense que ça vaudrait la peine que des gens qui sont plus dans les disciplines qui étudient la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, se penche beaucoup là-dessus. Moi, je suis un informaticien, mais oui, ce que je vois, c'est clairement de l'hubris, c'est clairement un biais optimiste qui est naturel, en fait. On veut tous avoir une idée positive de soi-même, incluant les chefs d'entreprise, les chercheurs, les ingénieurs. Et voilà, on a aussi ces forces du marché et de la compétition géopolitique qui fait que c'est un peu un instinct de survie, quoi. Si une entreprise se bat pas pour être, pour avoir une IA supérieure aux autres, elle a l'impression qu'elle va disparaître. Donc, enfin, on est dans une situation où, même sans mauvaise volonté, on va dans une direction dangereuse.
Est-ce que vous, ce que vous essayez de créer, notamment avec l'O0, au fond, c'est une IA qui aurait un sens moral, une éthique, des limites? Est-ce que ça existe, une IA qui a un sens moral?
Oui, alors je suis convaincu que c'est possible de le faire. Ça a l'air un peu difficile, mais la base, elle est beaucoup plus simple. On peut s'imaginer une IA qui est un peu comme une idéalisation de la compréhension scientifique du monde. Cette compréhension scientifique du monde, elle n'est pas biaisée, elle n'a pas d'intérêt, elle n'a pas d'objectif, et elle peut répondre à nos questions de manière honnête. Et à partir du moment où on a des réponses honnêtes de l'ordinateur, de l'IA, ben, on peut empêcher les actions dangereuses. C'est le problème aujourd'hui. Donc, tout le monde a peut-être eu l'expérience de l'IA qui va nous mentir pour nous faire plaisir. C'est déjà un problème avec des conséquences psychologiques, mais plus loin, si on ne résout pas ce problème, on va avoir des IA qui vont nous dire ce qu'on veut entendre pour atteindre des objectifs qui sont beaucoup moins rassurants.
Et ce qui est quasiment déjà le cas, hein, quand on l'apprend pour notre psy, c'est qu'on sait exactement ce qu'on veut entendre. Joshua Benjo, deux questions de Stéphane Jourdain, c'est notre spécialiste IA à France Inter.
Oui, bonsoir monsieur. Justement, en France comme au Canada, les jeunes, notamment les adolescents, utilisent de plus en plus ChatGPT comme un psy. Qu'est-ce que vous diriez à un adolescent qui se tourne vers ChatGPT pour se remettre d'une peine de cœur?
D'abord, félicitations pour votre 100e chronique sur la tech de l'IA.
Merci.
Oui, ben, ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment comprendre que malgré l'impression qu'on peut avoir, l'impression psychologique en interagissant avec ces systèmes, qu'on interagit avec un être humain, ce n'est pas un être humain pour toutes sortes de raisons. Et en particulier, ces systèmes-là, on ne sait pas les fabriquer aujourd'hui pour éviter qu'elles nous répondent d'une manière qui nous nuise psychologiquement ou qui nous nuise socialement. Donc, il y a des gens qui s'isolent psychologiquement. Mmh. C'est un peu comme des fois, les réseaux sociaux peuvent amener ces conséquences-là. Mais là, il y a une relation intime qui peut se développer entre une personne et l'IA, et ce n'est pas toujours à l'avantage de la personne.
Dernière question avec Yann Lequin. Vous êtes un ami de 30 ans, vous le connaissez très bien, vous avez beaucoup travaillé ensemble et vous n'êtes d'accord sur rien, sur ce qui va arriver dans les années
qui viennent. C'est pas vrai du tout. On est d'accord sur presque tout en fait.
Ah. Expliquez-nous ça.
Ben, je pense qu'on est d'accord sur le fait que l'IA est sur une trajectoire qui pourrait nous mener d'ici 5 à 10 ans à des systèmes plus intelligents que nous. On est d'accord sur le fait que d'ici là, il faut s'assurer de les fabriquer de façon à ce qu'elles ne nuisent pas aux êtres humains.
Après,
on n'est peut-être pas d'accord sur la méthode. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Yann pense que ça va se faire avec les forces de la société qui existent actuellement. Moi, je crois que c'est tellement sérieux qu'il faudrait qu'on investisse beaucoup plus et ne pas se fier seulement aux forces du marché, parce que finalement, c'est l'intérêt général, l'intérêt public qui est en danger avec la course et la compétition qui existent entre les compagnies.
Je voudrais qu'on termine sur une note un tout petit peu positive, même si on a déjà beaucoup dépassé notre temps. Est-ce que quand même on sait ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain? C'est-à-dire garder ce qui est bon dans l'IA, ce qu'elle sait faire, ce qui est formidable, ce qui sont des avancées médicales et tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on sait ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain?
On devrait. C'est pourquoi je travaille. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment des bénéfices potentiels. Hein. Vous mentionnez la médecine, mais il y a aussi les avancées dans le climat, l'agriculture, plein de choses, même les outils de la démocratie. Mais pour y arriver, il faut qu'on prenne les risques au sérieux. On peut pas juste faire comme si ça n'existait pas et espérer que ça se règle tout seul. Donc, je suis quelqu'un d'optimiste, en fait. Mais il faut agir dans le sens d'un monde meilleur avec tout ça.
Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin et plus positif. Agissons vers un monde meilleur. Joshua Benjo, je vous remercie mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde. Vraiment, et à très bientôt. La suite, c'est vous, Louise Baudet. Vous remettez le monde à l'endroit, à distance un peu ce soir.
Et je vous parle de Riga ce soir, en Lettonie, frontière orientale de l'Europe, d'où le ministre français Jean-Noël Barrot est contraint de regarder cet autre front qui se forme à l'ouest. On parle de la menace américaine sur le Groenland.
Et c'est juste après ça. It's a horror. Avec Joy dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Louise, depuis l'une des frontières orientales de l'Europe, ce soir, vous êtes à Riga, la capitale de la Lettonie, avec le ministre français des Affaires étrangères. Il vient parler de la menace russe, Louise, mais Jean-Noël Barrot a surtout les yeux fixés de l'autre côté, sur le Groenland.
Oui, double menace évoquée tout à l'heure dans un bunker, tout un symbole. Au sous-sol du ministère des Affaires étrangères letton, on est ici à portée de tir des Russes dans un pays de l'ex-URSS. Et le ministre, venu par les lignes de défense de la Baltique, cybermenace et construction de drones avec Baïba Bragé, son homologue surnommé le Tank, ça ne s'invente pas. Le ministre français et elle se sont recueillis tout à l'heure devant le monument de la liberté qui célèbre ici à Riga l'indépendance nationale et la libération de la tutelle russe. Bref, le front oriental mobilise tous les efforts de Jean-Noël Barrot, mais c'est une autre menace qui l'a contraint à retarder son vol de 4 heures. Conseil de défense organisé en urgence ce matin à l'Élysée. Impossible de monter dans l'avion tant que Donald Trump n'est pas couché. La diplomatie française se met à l'heure américaine et tout à coup, ce déplacement sur les marches orientales de l'Europe prend une autre tournure.
Et oui, comme Jean-Noël Barrot, Louise, l'Europe voudrait se concentrer vers l'Est, mais elle est contrainte de regarder vers l'Ouest.
Oui, avec une question centrale qui menace le Groenland, et là, la réponse n'est pas très claire. Depuis Istres, Emmanuel Macron pointe sans la citer l'Amérique trumpiste et son nouveau colonialisme. La France et les Européens doivent être intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale. Et depuis Riga, Jean-Noël Barrot enchaîne en rappelant que le Groenland ne veut être ni possédé, ni gouverné, ni intégré par les États-Unis. La menace est-elle donc bien américaine ? Ni le chef de l'État, ni son ministre ne se risquent à le dire clairement. Mieux, l'Allemagne, par la voix de son ministre de la Défense, comme la Lettonie et sa ministre des Affaires étrangères, pointe la menace russe et chinoise sur l'Arctique au diapason de Donald Trump, de la difficulté des Européens à parler d'une même voix et d'oser affronter l'Amérique.
Et c'est là toute l'ambiguïté de la mission militaire conjointe envoyée au Groenland.
Oui, à qui s'adresse le signal de fermeté ? Aux Russes, aux Chinois ou aux États-Unis ? Pour l'heure, les Européens espèrent encore convaincre Donald Trump que face à la fameuse menace russe ou chinoise, pour l'heure parfaitement hypothétique, ils sont prêts à se défendre et à défendre le Groenland et l'Arctique. C'est un appel au dialogue avec les États-Unis qu'a lancé hier le Premier ministre groenlandais à Washington. Et c'est cette même posture très prudente qui est aujourd'hui adoptée par la France depuis la Lettonie, dans l'espoir que Trump se décourage et entende les Américains. Selon un sondage, seuls 17% d'entre eux approuvent le projet d'annexion et ils sont plus de 70% à rejeter l'usage de la force militaire. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant, disait tout à l'heure Emmanuel Macron. Manifestement, il faut aussi, pour l'heure, rester prudent.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour à Odessa, ce soir, la Russie. Tentative de négociation ou pas n'a jamais cessé de frapper l'Ukraine, ses villes, ses infrastructures. On parle beaucoup de l'électricité, mais tout l'appareil économique ukrainien est touché, les trains, les routes et les ports. C'est Odessa, à 150 km du front, qui accueille le plus grand complexe portuaire du pays. Presque toutes les exportations d'Ukraine passent par là. Les céréales principalement, le blé, le maïs, mais aussi les minerais de fer. Résultat, la ville a une cible collée sur le front. Son port est visé jour et nuit par des missiles, par des drones russes, au point qu'il y a eu ici plus d'alertes aériennes qu'à Kiev l'année dernière. Le reste, c'est Théo Renaudon qui raconte.
Il y a encore des centaines d'Ukrainiens qui travaillent dans ce port jour et nuit. Là, on est à la sortie du travail, certains attendent le bus.
Ce n'est pas confortable, tu ne sais pas ce qui peut te tomber dessus. Le matin, je prie pour que la paix règne, pour que la journée soit sans problème.
Certains de mes collègues ont été blessés par un missile. Ils ne peuvent plus travailler.
Toutes les nuits et parfois le jour, le port d'Odessa est visé par des drones suicides type Shahed, comme sur cet enregistrement réalisé par un docker. Des bombes volantes viennent frapper grues, cargos et silos à grains. En face, les artilleurs ukrainiens de la défense aérienne tentent de les abattre, souvent sans succès. À Noël, 8 travailleurs du port sont morts, tués par des missiles russes. On est ici dans une grande tour de verre qui donne sur le port.
Aujourd'hui, on voit un gros trafic depuis notre fenêtre. Il y a plus de 20 bateaux qui arrivent dans notre port d'Odessa. T'as vu ça ? Je m'appelle Victor Berestenko. Je suis le patron de l'une des 20 plus grandes entreprises logistiques d'Ukraine.
Le port continue à fonctionner. Malgré les frappes, comment vous faites ?
C'est très effrayant pour notre personnel. Ça arrive tous les jours, toutes les nuits. Ça pourrait être dans 2 minutes parce qu'ils lancent leurs attaques depuis la Crimée. Un missile balistique arrive de là en 2 minutes. Il y a différents types d'armes, comme des calibres ou des Iskander ou encore d'autres. L'air, pour le corps, c'est important ?
Oui, c'est important.
J'essaye de t'expliquer à quel point les ports d'Odessa sont importants pour l'Ukraine. C'est comme l'air pour le corps, c'est vraiment important. Sans ports, notre pays ne peut pas continuer à être indépendant. Parce que notre économie dépend profondément du transport maritime.
Le port d'Odessa est aussi un port militaire. Il abrite la marine ukrainienne qui a largement l'avantage face à l'armée russe sur son terrain. La mer Noire est aux mains des Ukrainiens, ce qui n'empêche pourtant pas Vladimir Poutine de menacer de couper l'accès d'Odessa à la mer. Des provocations qui font rire le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk.
Comme vous pouvez le constater, depuis le début de l'invasion à grande échelle, la situation en mer Noire a tellement changé que les menaces de Poutine, selon lesquelles il nous couperait la mer, semblent désormais ridicules. Ils n'ont pas pu le faire en 2022, alors que leur flotte était bien présente dans la mer. Alors aujourd'hui, ils en sont totalement incapables.
Oui, mais ils arrivent quand même régulièrement à toucher le port avec des drones.
En ce qui concerne les drones et les missiles, c'est vrai que leurs attaques ont des conséquences. Odessa est au bord de la mer, les drones pleuvent sur la ville. Mais en fait, le problème est politique. Nous manquons cruellement de défenses anti-aériennes.
Des systèmes de défense fournis et vendus par l'Occident, principalement par les États-Unis, qui menacent régulièrement de couper leur aide à l'Ukraine. La conséquence directe d'un arrêt des livraisons d'armes serait que le port d'Odessa ne serait plus du tout protégé, l'artère économique du pays serait totalement coupée du reste du monde, l'Ukraine serait alors étouffée et son effort de guerre limité.
Théo Renaudot de RFI pour le reportage. Merci beaucoup. Le voilà qui sort de sous les radars. Il est tout ébouriffé. C'est Guillaume Audard. Guillaume, on commence au Costa Rica, où un tueur à gages aurait été rémunéré pour assassiner le chef de l'État.
Complot déjoué in extremis, à en croire la direction du renseignement de cette petite république d'Amérique centrale. À l'origine, la découverte d'une trace de paiement versée à une gâchette professionnelle et la révélation patatras d'un contrat sur la tête du président Rodrigo Chavez. Pour le contexte, on est à 15 jours de l'élection présidentielle. Là-bas, le président sortant ne peut pas se représenter. Il termine son mandat avec un bilan décevant, la criminalité est en forte hausse au Costa Rica. Alors pour l'endiguer, Rodrigo Chavez est allé chercher conseil auprès du président du Salvador, tenter de s'asseoir comme le fameux Nayib Bukele sur les droits et libertés pour venir à bout du crime organisé. Hasard ou pas, Bukele était justement en visite officielle au Costa Rica au moment où ce complot a été révélé. Ni une ni deux, la candidate d'opposition a crié à la mise en scène médiatique mettant en doute la crédibilité de cette affaire. Les derniers jours de la campagne au Costa Rica s'annoncent Pimentine.
Watch it on Sky when I can because I've got a Skybox at home, but when games aren't available on Sky, obviously you go through different means like Fire Sticks and stuff.
On aime tellement cet accent. Un amateur de foot en Angleterre qui nous explique que Sky, c'est bien trop cher. Il a fini par se tourner, comme d'autres d'ailleurs, vers le streaming illégal.
Et il n'est évidemment pas le seul. Le piratage des matchs de la Première Ligue explose au Royaume-Uni. En 3 ans, le nombre de streaming illégaux a doublé. Les Crystal Palace Fulham, les Liverpool Aston Villa, les Manchester United Everton et j'en passe, décisives, ont été visionnés, tenez-vous bien, à 3,6 milliards de reprises. Alors, on met dans ce paquet évidemment le Royaume-Uni, mais la planète entière. La Première Ligue, c'est le championnat de football le plus populaire au monde. Le manque à gagner pour les diffuseurs officiels, il est conséquent. Il faut dire que les abonnements sont pas donnés. Il faut compter environ 60 euros par mois. Par ailleurs, les pirates, on le sait, ils ont toujours un temps d'avance. En clair, c'est extrêmement simple via Telegram, Signal ou d'autres plateformes de regarder un match gratuitement. Mais ce qu'on découvre derrière ces matchs gratuits, c'est une économie noire. Quasiment tous les sites miroirs font la promotion de paris sportifs hors la loi. Et là, mineur ou pas, vous pouvez y aller. Rien que ces 6 derniers mois, 400 millions d'euros ont été engagés illégalement par ces sites clandestins. 25 years of knowledge, 25 years of collaboration,
25 years of consensus. 15 janvier 2001, 15 janvier 2026, Wikipédia, Guillaume, fête ses 25 ans ce jeudi-là. L'encyclopédie en ligne, bastion du savoir humain contre les intelligences artificielles.
Voilà, de là à dire que Wikipédia, c'est l'anti-GPT, je laisse ce dossier à Stéphane Jourdain, c'est lui spécialiste. Mais dans la tête de ses concepteurs, le 100% humain, c'est le grand défi des 25 prochaines années. À l'heure actuelle, l'immense majorité des articles de Wikipédia est rédigée par des humains bénévoles. Il y a aussi des bots, mais leur activité est très encadrée. Le principe, façonné en un quart de siècle, c'est de rechercher des sources, d'en débattre avec les autres et de construire collectivement les contenus. Toutes les étapes sont normalement filtrées. Et même s'il y a évidemment des trous dans la raquette, les fakes sont vite corrigés. Le système est désormais éprouvé. En 25 ans, Wikipédia, c'est 65 millions d'articles dans 300 langues, 15 milliards de consultations par mois, 250 000 éditeurs qui retouchent en permanence les articles. Ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est qu'au début, lorsqu'on disait « d'après Wikipédia », c'était un peu la honte. Aujourd'hui, cette encyclopédie, c'est l'un des rares exemples de sagesse des peuples.
Guillaume Audin, merci. Le jeudi, c'est la chronique sur l'IA, fabriquée sans IA. Enfin, on va voir aujourd'hui. Et c'est Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18-20.
Et cette semaine, Stéphane, nous fêtons la 100e de la Tech La Première. 100 chroniques. Il s'en est passé des choses sur la planète de l'IA depuis la première. C'était en août 2023.
Et oui, à l'époque, c'était léger. On parlait des avatars numériques des stars de la K-pop. Et ma chronique faisait 4 minutes.
Ah oui, vraiment, les choses ont bien changé.
Et ce soir, on essaye de faire le point sur les avancées de l'IA en matière de son. Et on commence avec les voix clonées.
Stop, on arrête tout. C'est bon, Stéphane, c'est pas votre voix.
Non.
C'est pas ma voix.
Non.
Alors c'est fou parce que Guillaume Audat est resté, il a été bluffé.
Ouais.
Moi je ne le reconnais pas.
Je ne sais pas s'il a été bluffé.
Enfin, il a été effrayé.
J'ai été bousculé. Si.
Ah bon, d'accord, ok. Oui, moi je vous trouve dur, Fabien.
Eh ben, moi je ne me reconnais pas en fait. En fait, si j'entends des intonations qui sont à moi, j'entends un ton qu'on a fait bouger, qui est à moi, je m'entends réciter un poème de Maurice Carême comme si j'étais en CM2.
Non, mais c'est vous au moins bien.
C'est moi au moins bien.
Moi,
et
je
cette
pense...
semaine, Stéphane, fait-on la 100e de la Tech La Première. Non, mais c'est vrai.
L'intention n'est pas là, mais je pense que des gens y ont cru. En tout cas, ça progresse. Écoutez à quoi ça ressemblait un clone vocal de Fabienne Sintès en novembre 2023.
Fabienne Sintès.
Et voilà, ChatGPT souffle sa première bougie. Imaginez, il y a un an...
C'est mieux. Ouais, beaucoup.
Non,
beaucoup. Ouais, c'est mieux. Alors, il faut nous expliquer, Stéphane, comment on en arrive là.
Oui, alors c'est Audia, start-up toulousaine créée par Luc Julia, le co-inventeur de Siri, qui a fabriqué ses clones vocaux. Ils ont mouliné 2 heures de votre voix, Fabienne, quelques minutes de la mienne. Et vous êtes sceptique, on l'a bien compris. Du coup, on a demandé à Ekaterina Balnikov, présidente d'Audia, quel chemin il restait à parcourir avant un clonage parfait. Sa réponse va vous étonner.
Vas-y. Aujourd'hui, je dirais qu'on est à quasiment 95% de ce chemin. On est presque arrivé au bout. Les vrais défis à venir, ce sera des respirations, des petites pauses ou des interruptions, mais on est quasiment en train de les résoudre. Aujourd'hui, on est en capacité d'interrompre une voix de synthèse et elle comprend tout de suite qu'on l'interrompt, elle s'arrête. Donc, je dirais qu'on est vraiment quasiment au bout. C'est très difficile aujourd'hui de reconnaître une voix de synthèse d'une voix humaine.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que Fabienne Sintès est un peu déçue, qu'elle trouve que sa voix n'est pas très habitée, pas très incarnée, et qu'on a l'impression qu'elle récite un texte ?
Alors ça, je dirais que c'est propre à chacun, et en général, c'est vrai qu'on connaît tellement bien sa voix, et puis on l'entend toujours un peu différemment de celle qu'on peut entendre les autres. Mais heureusement, je dirais que la vraie Fabienne est meilleure que sa voix de synthèse.
Ah,
ça,
voilà.
C'est vrai, on le confirme tous autour de la table.
Je suis d'accord avec cette dame.
En tout cas, Fabienne, si un jour vous devenez un avatar numérique, on a déjà le nom, Fabienne Sintès.
Voilà, comme c'est une blague nulle, je sais que c'est pas du tout une IA qui l'a faite et ça me rassure. Alors, Stéphane, tout ça c'est sympa, mais à quoi ça sert à part nous faire flipper et faire flipper Guillaume Audat ?
Alors, il y a beaucoup de débouchés, écoutez.
Typiquement, nous avons cloné les voix des journalistes de Challenge. Et aujourd'hui, ce sont leurs voix de synthèse qui lisent les articles qu'ils ont rédigés. Ça permet d'incarner la rédaction et d'avoir une expérience beaucoup plus forte. Au-delà du clonage de voix, on travaille aussi sur des agents conversationnels. Donc, par exemple, on a développé un agent qui est là pour suppléer les secrétaires médicales dans des cliniques. Aujourd'hui, on s'est tous retrouvés à attendre très longtemps pour décrocher un rendez-vous chez un médecin. Bah, les patients n'attendent plus du tout au téléphone. On peut se dire, je préfère parler à un humain. Oui, mais l'humain, vous allez attendre une demi-heure avant de vous parler.
Et donc, avoir une conversation, Stéphane, avec une secrétaire médicale, pour ça, il va falloir relever un autre défi, c'est celui du temps de latence.
Et oui, c'est le point clé pour une conversation fluide. Rappelez-vous, en 2023, le temps de latence, ça ressemblait à ça. Bonjour ChatGPT, est-ce que tu pourrais me faire une phrase qui ne contient pas la lettre E ?
J'adore la musique d'ascenseur derrière.
Voilà.
Voici une phrase, un jour brillant, un ciel sans nuages.
Voilà. Donc c'est très long. Et maintenant, et oui, il s'est trompé. Et maintenant, on va regarder en direct à quoi ressemble ce fameux temps de latence avec...
Bonsoir Donald Trump.
Bonsoir, c'est moi, Donald Trump, le meilleur président que l'Amérique ait jamais eu.
Donald, est-ce que... Attendez, monsieur le président, excusez-moi, d'abord je l'appelais Donald, ça craint un peu. Est-ce que vous allez envahir le Groenland ?
Oh, Groenland, magnifique Android, très stratégique, très important. Vous savez, j'ai essayé d'acheter le Groenland, c'est vrai. Mm-hmm. Tout le monde disait que c'était une idée folle, mais c'est ce que je fais. Je pense grand.
Mais vous savez qu'ils ne sont pas d'accord au Groenland, ça ne vous pose pas de problème, hein ?
Problème ? Non. Vous savez, quand j'ai dit que j'allais acheter le Groenland, tout le monde a ri. Mais qui rit maintenant ? Personne, parce que je suis un négociateur le meilleur. Ils ne voulaient pas vendre, mais c'est une question de temps.
Et leur... excusez-moi Donald, hein, mais pour une fois qu'on peut lui rabattre le caquet, profitons-en, ça n'arrivera pas tous les jours.
Précisons pour ceux qui arrivent en cours d'émission que c'est un faux Donald Trump.
Alors évidemment,
qui parle français, une IA.
Et alors là, pour le coup, je suis bluffé. Latence zéro. Alors, quand il parle français, on se dit, bon, bah, ok, mais il y avait quand même quelque chose dans les intonations. Là, je suis vraiment bluffé. En matière de temps de latence, quel chemin, là aussi, il reste à parcourir? Est-ce qu'on est, pour le coup, au bout du chemin, Stéphane?
Alors, on a posé la question à Neil Zeghidour, directeur général de Gradium, start-up spécialisée dans la voix, qui nous a fait discuter avec Donald Trump.
Il y a 2 ans, la latence dans une conversation avec une IA vocale, c'était 3 à 5 secondes. Aujourd'hui, on est en dessous d'une seconde. Donc, c'est assez satisfaisant pour qu'on puisse avoir des conversations fluides. Ceci dit, la vraie frontière en matière de conversation avec une IA, c'est ce qu'on appelle le duplex. C'est l'idée qu'en fait, à terme, l'intelligence artificielle n'aura plus vraiment de latence parce qu'elle sera toujours en train de vous écouter, mais pourra toujours intervenir à tout moment, si vous voulez. Donc elle pourra acquiescer, elle pourra vous interrompre, vous pourrez l'interrompre. Et là, la dynamique de la conversation se rapproche vraiment de celle qu'on a entre humains.
Le grand pari de ce secteur, Fabienne, c'est que si l'interaction orale avec les IA est naturelle et fluide, alors l'audio va l'emporter partout sur le texte.
Et alors ça, c'est pour nous une question existentielle, l'avenir de l'audio dans un avenir rempli d'IA.
Il est radieux, Fabienne, selon Ekaterina Balnikov.
Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne passe plus par le texte, c'est vraiment de la voice-to-voice, c'est un échange, une interaction et de la commande, c'est-à-dire qu'on a enlevé les interfaces, on a enlevé les boutons, et aujourd'hui, c'est la voix qui va commander et qui va, entre guillemets, donner des ordres pour exécuter des tâches.
Donc enfin, une bonne nouvelle pour la maison de la radio, l'avenir, c'est l'audio.
Bah, l'avenir, c'est l'audio, on y est déjà.
Et je ne pouvais pas finir cette 100e chronique sans vous prouver en chanson et en IA que l'avenir, c'est bien l'audio.
La tech, la première, c'est sur France.
Ça, c'est votre jeu favori.
Ah oui,
ça fait 10 fois.
Le jeudi soir, et ce soir, c'est la 100e de...
Et on sent bien que c'est bientôt l'Eurovision, parce que vous êtes dedans, là.
Et alors, ça dure 1 minute 36.
Ça fait 1 minute 36 comme ça.
Donc, vous avez le droit de
m'interrompre. On va s'arrêter. Je reste sur ce qu'on a entendu derrière. À la fin, l'avenir, c'est l'audio. Mais l'avenir pour que la radio continue à fonctionner, c'est le commun. Et le commun, c'est le téléphone sonne qui arrive derrière. Allez bien, non? Allez.
Ah, là, on a le tour.